Fakir, le podcast. Et si on en parlait ?
Bonjour à tous et à toutes. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Emilienne Temples qui a répondu favorablement à notre demande d'interview pour notre podcast Fakir et si on en parlait. Alors donc Emilienne Temples, tu es comédienne, réalisatrice et je te laisse te présenter pour la suite.
Donc oui, je suis Emilienne, comme mon nom l'indique. J'ai un petit surnom, c'est Milou. Moi je dis plutôt actrice parce que comédienne, je trouve ça fait comédien, puis ça rime avec chienne et avec Emilienne qui est mon prénom, et bon, je trouve que c'est une petite lourdeur, voilà. Et actrice, ça laisse le doute, cinéma, théâtre, etc. Et comme a priori pour le moment j'ai vraiment très envie de faire du cinéma, je pense qu'actrice ça marche mieux. Sinon, en effet, j'ai fait du documentaire un peu à ma sortie d'école. J'ai également fait des expos photos tout un temps. Je travaille pas mal dans la performance aussi. Je m'approche de 40 ans. J'ai fait mes études au Conservatoire de Liège. Et puis après, j'ai fait un master aussi à l'Université de Liège en cinéma documentaire.
Donc moi, si je t'ai invitée pour intervenir sur ce podcast, c'est parce que forcément, tu as une expérience et un rapport à la scène qui est particulier, qui est régulier. C'est ton travail en tant qu'actrice, comédienne, réalisatrice. Et donc, pour le sujet de ce podcast, je trouvais intéressant d'avoir un petit peu ton avis. Donc, en fait, ma première question vis-à-vis du rapport à la scène et le rapport au corps, c'était un petit peu voir comment tu avais vécu ta première scène, vraiment ta toute première scène, et de manière générale, en sachant que c'est en mouvement permanent, forcément en évolution, mais quel était ton rapport à la fois personnel à la scène, mais aussi vis-à-vis de ton travail ? Comment tu vis la scène ?
En fait, bon, moi, la première expérience, elle était très jeune. C'était en première secondaire, donc j'avais 12 ans, et c'était un de mes profs, un prof de musique, qui faisait partie des chœurs de la Monnaie. Mmh. Et donc, ils avaient besoin d'enfants pour faire de la figuration. Et c'était un opéra qui durait 5 heures. C'était la Kovanchtchina de Moussorgsky. C'était superbe, complètement dingue. Et donc, j'avais plein de moments sur scène où j'avais des actions très précises. Je devais apporter une grande vasque avec du feu dedans et on allait tous mourir, s'immoler dedans. Mmh. Puis à la fin, on mourait et tout. Et puis c'était sublime parce que c'est de l'opéra et c'est pas une petite scène pour commencer son truc, mmh. quoi. Et en fait, donc ce job que j'avais pris comme ça, comme un job, directement, j'ai senti je me sentais bien sur cette scène. Je me sentais très bien. Mm-hmm. J'ai trouvé ça super agréable. Et puis c'était gay en plus, parce que bon, on était quelques-uns des enfants, quoi. Et donc on était bichonnés par les chanteurs, les chanteuses. On allait dans leur loge, ils nous donnaient toujours un petit morceau de cake, wow. et tout. Et donc c'était un peu le rêve, mmh. c'était complètement dingue. Je revis ces épisodes. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais retourner sur scène. Et donc, ça tombait bien parce que j'étais dans un lycée, le lycée Martin V à Louvain-la-Neuve, où il y a une option théâtre.
Ah oui.
Et donc, je suis directement allée dans l'option théâtre. Mmh. Et donc, j'ai directement eu des cours de corps, de machin, de trucs, des cours de déclamation. Et donc, en fait, très vite, d'être dans une dynamique où on faisait des spectacles, etc. Alors là, c'est là que les difficultés ont commencé, évidemment.
Mm-hmm. Oui, oui.
Parce qu'en secondaire, je veux dire, je faisais pas la maline, quoi.
Mm-hmm.
En plus, c'est l'adolescence, c'est super compliqué. Mm-hmm. C'est le moment où on a un rapport au corps qui est vraiment... Je me souviens que j'avais eu une prof qui m'avait dit « Mais Emilienne, tu mets jamais de mini-jupe, tu devrais mettre des mini-jupes, ça tirait super bien. » Et moi, j'étais un garçon manqué, et j'étais là « Mais qu'est une mini-jupe et tout ?» Et puis, de nouveau, tu vois, comme je te disais, d'ouvrir sa tête et de se dire « Bah oui, mais en fait, si moi je suis une actrice, il faut que je sois à l'aise dans tout.
Mm-hmm.
Que ce soit des hauts talons, des machins, des trucs, il faut que je sois polymorphe.
Oui. »
Ce qui n'a strictement rien à voir avec ma vie à moi, bien et sûr. Avec mes préférences personnelles. Mmh. Chez moi, Je suis en short, en training, en basket, on s'en fout. Mais sur le plateau, enfin, en tout cas, un acteur, je pense, il doit pouvoir... Alors, bien sûr, il a des affinités avec certains objets et avec d'autres objets moins, mais il doit pouvoir se transformer. Ça fait partie de ce travail et de trouver le plaisir là-dedans, quoi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, on s'imposait plein de barrières mentales par rapport à la façon dont on bouge, dont on parle, etc., comment tout ça est extrêmement formaté, et qu'en fait... Il suffit de le prendre, mais comme un... c'est un travail, mais donc comme changer un réflexe, changer quelque chose et se dire « Ah tiens, qu'est-ce que ça fait si je bouge ma tête comme ça, que je relève le menton, que je marche comme ça ?» Et ça, c'est vraiment super plaisant. Et puis de voir que du coup, en fait, par la transformation physique et psychologique aussi, psychique, parce qu'on se met dans un état d'esprit, de pensée comme le personnage, etc. Eh bien, du coup, la scène, on s'en fout. Enfin, c'est plus moi. C'est plus moi du tout. Et alors, c'est marrant parce que là, je fais un atelier stand-up pour le moment. Et donc, les gens qui font du stand-up, c'est pas des acteurs et des comédiens à la base. Et en fait, je remarque que je suis hyper flippée. Parce que dans le stand-up, je parle en jeu. Je raconte des histoires à moi, même si je peux inventer, bien sûr. Hein. Je pense qu'on n'est pas dans l'autobiographie. Enfin, tout le monde s'en fout que ce soit totalement vrai ou pas. Mais c'est quand même soi-même, ou une représentation de soi-même. Mais je pense, voilà, là, j'ai terriblement de difficultés parce que je me dis, mais où est le personnage ? Enfin, or, il faut le créer, hein, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus, je sais pas, tout d'un coup, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes mains et puis, c'est un rapport frontal aussi au public. On n'est pas dans des costumes, des déplacements, des machins. C'est tout nu au micro, quoi. Et ça, je trouve, c'est très flippant.
Ouais. Ouais, tout à fait. Mais alors, justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, tu vois, là-dedans, et par rapport à ce que tu viens de dire précisément... c'est donc de transposer un peu tout ce questionnement pour le secteur musical qui a beaucoup moins, je pense, d'apprentissage et de formation quant à la scène, au rapport à la scène, quoi. Et à comment vivre une première scène, etc., comment l'aborder, comment pouvoir anticiper les ressentis, les éventuelles agressions ou plaisirs qu'on va y ressentir et comment ensuite pouvoir les utiliser comme outils artistiques, quoi. Et donc moi, je me demandais si... par rapport à ça, tu avais des outils que tu pourrais ou que tu aimerais voir se développer. Un apprentissage de la scène, une pédagogie, quelque chose qui permette d'avoir un accès à la scène qui soit déjà peut-être plus connu.
Oui, alors, bon, moi en tout cas, je ne peux pas faire fi de ma propre expérience et donc des apprentissages que j'ai eus et des pratiques que j'ai eues, parce que je ne peux pas fantasmer sur des pratiques que je n'ai pas expérimentées moi-même. Et à l'école, pour te dire, on avait 3 cours de mouvements différents. Il y en avait un qui était mouvement voix, un autre où c'était mouvement, mais plutôt truc relax, je sais pas quoi. On avait une prof qui mettait parfois du patchouli au sol, on glissait dessus, enfin bon. Et puis un autre truc où c'était plus vraiment des techniques, Meyerhold, etc. Donc les Russes, comment tu te places, etc. Et je trouvais que c'était assez complémentaire. En fait, j'ai trouvé ça, j'ai adoré ces cours au conservatoire, pour des raisons différentes, tous les 3, mais ils allaient travailler le corps, pas du tout d'une façon... En fait, il n'y a pas une méthode. Voilà. Et chaque prof avait un peu son petit dogme avec son petit cours, mais nous, on avait 3 cours différents avec ces gens, avec des personnalités complètement différentes. Mais alors, vraiment, entre le punk et la hippie, enfin bon.
Oui, forcément.
Et donc ça, c'est des trucs d'affinité. Par exemple, il y a des gens... Moi, j'ai besoin d'une préparation avant de monter sur scène. Je fais une préparation physique toujours avant de jouer au théâtre. Ça manque d'ailleurs au cinéma. Mais Donc je m'échauffe et j'ai des échauffements particuliers. Mmh. Et tous les acteurs n'ont pas le même échauffement. Mmh. Il y en a qui vont se mettre avec un Walkman et faire une espèce de méditation. Moi, je suis plutôt du genre à courir partout, à raconter plein de blagues, à me rouler dans les trucs en faisant des grands cris, des grands machins, pour essayer d'explorer en fait toutes les limites physiques pour bien sentir que mon corps est avec moi totalement. Mmh. Mais moi, je suis comme ça, parce que j'ai peut-être un tempérament explosif, j'ai fait des arts martiaux aussi. Et donc, voilà, je suis plus kung-fu que yoga, quoi, tu vois. Mais c'est un peu à chacun. Alors évidemment, dans la musique, bon, moi, j'ai pas de pratique de secteur, personnellement, c'est vraiment... Mais je connais des gens dans la musique, encore que moi, j'ai envie de dire les musiques, parce que entre quelqu'un qui est dans un orchestre de chambre et un ami chanteur de punk ou ci ou là, je veux dire, on est carrément... C'est pas les mêmes scènes, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes trucs. Dans les trucs de rock... À la limite, même tu vas boire de la bière sur scène si t'es DJ, c'est encore complètement différent. Donc, de quelle musique on parle, tu vois, ça aussi, c'est la question. Parce que aussi, si t'es DJ, ben, t'es un peu derrière tes platines, donc t'as une protection, en fait. Hein, t'es protégé par ton truc. On voit ta tête vaguement, et puis toi, tu peux être juste dans tes petites machines, c'est bon. Si t'es musicien dans la fosse, ben, t'es dans la fosse, puis t'as un costume qui te protège, parce qu'ils ont tous un costume... En fait, t'es plus nu si t'es en mode John Bass avec ta guitare. Je crois qu'ils doivent inventer un peu leur propre méthode, mais en s'ouvrant, quoi. En essayant des pratiques différentes. Je pense que le sport, c'est jamais mauvais, mais c'est pas le sport. En fait, c'est tellement lié au spirit aussi, comment on se met à l'aise. Le sport va permettre d'habiter son corps, ce qui est super important. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sportifs et ils vont habiter leur corps d'une façon un peu à côté. C'est pas systématique, hein. Et puis tu as des gens qui font du sport et qui habitent leur corps complètement à côté aussi. Mais de voir qu'est-ce qui fait du bien et qui est complètement personnel, quoi. Et pour ne pas avoir peur du regard des autres. En fait, c'est comment tu travailles ta puissance interne. Mmh. Et la puissance interne, ça peut se travailler en se faisant un petit rituel dansant, un petit truc. Moi, je crois très fort au rituel. Mmh. C'est quelque chose auquel je crois et qui est, je trouve, qui est un peu rendre hommage aussi au côté sacré de la scène. Mmh. Parce que tu ne vas pas fouler la scène avec tes vieilles chaussettes. Voilà, la scène, c'est un lieu particulier. Mmh. Et le rapport au public aussi. Mmh. Et donc, il y a quelque chose, oui, de rituel. Et je crois que c'est super important de garder ça. Enfin, et donc, de trouver ses propres rituels personnels. Les rituels avec les autres personnes qui vont sur scène avec soi. Donc, voir à quel moment est-ce qu'on fait quelque chose de collectif. Ça, dans le théâtre, systématiquement, il y a des moments de rassemblement de toute l'équipe. Alors parfois, c'est juste merde et voilà. Mais en tout cas, on va quand même se serrer dans les bras, etc. Parfois, on se met en cercle. Parfois, ça peut être un peu cucu. Moi, il y a des fois, ça m'emmerde. Il y a certaines équipes où j'ai pas du tout envie de le faire. Puis il y a d'autres équipes où, en fait, j'ai hyper envie de le faire. Donc aussi, ça varie. Mais il faut trouver un peu quel est le petit truc, quel est le petit mot personnel. Est-ce que tu fais un petit cadeau à ton partenaire avant la première, des choses comme ça. Nous, on fait ça dans le théâtre. Ça se perd et c'est dommage, mais c'est... Voilà, c'est pas un métier anodin de monter sur scène.
Ah non, c'est évident. C'est pour ça que le questionnement est, je pense, relativement important aujourd'hui. C'est effectivement de récolter des informations, des outils de la part de professionnels et professionnelles des secteurs des arts scéniques, de manière générale, peut-être éventualiser dans un second temps et dans un plus long terme, des formations précises hors du milieu théâtral qui pourraient aider justement ce rapport à la scène qui, je pense, peut être très brutal aussi.
Mais ça, malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais fait un stage comme ça de danse-théâtre et qui était destiné à des amateurs et j'ai trouvé ça super. Parce que je pense que justement, pour les gens dans la musique, c'est quelque chose d'éloigné et en même temps de proche. Et ça, il y en a pléthore, des stages de ça. Et je crois que d'en faire, c'est vraiment pas mal parce que du coup, ça permet de prendre conscience de ce corps que nous avons et de l'habiter et de voir comment les choses peuvent swinguer, quoi.
Tout à fait, super. Mais écoute, Emilienne, je te remercie
mais de rien.
Pour tes propos, pour ton témoignage. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de tes actualités prochaines?
Ah ben, artistique, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, là, tout à l'heure, je prends un avion pour aller marcher sur le Camino del Norte du Santiago Compostelle pour nettoyer également mon esprit et mon corps.
Merveilleux. Mais profite bien.
Merci.
Super. À très bientôt.
Merci.
J'ai le plaisir d'accueillir Lucie du projet Oberbaum, qui est donc ton projet, dans lequel tu es claviériste et chanteuse. Alors Lucie, je vais te laisser te présenter en quelques mots, comme tu le souhaites, et nous faire part un petit peu de ton parcours.
Donc, je m'appelle Lucie Réjosi. Mon projet principal où je suis compositrice, interprète, c'est Oberbaum, mais je joue aussi dans d'autres groupes. Fabiola, j'ai joué dans Condor, dans les Juliens. Au niveau de mon parcours, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter. En gros, j'ai vraiment fait de la musique depuis que je suis toute petite, mais vraiment genre 3-4 ans, et le premier cours de piano. J'ai vraiment suivi le parcours classique, académie, perfectionnement, solfège, piano, harpe pendant 7 ans. Ouais. Musique de chambre, je prenais des cours de synthé, des cours de jazz en privé à côté. Vraiment, j'ai passé ma jeunesse à l'académie, et puis après ma reto, je suis partie un an en Angleterre pour étudier le chant à la Academy of Contemporary Music à Guildford. Voilà, et quand je suis revenue, j'ai longtemps hésité à étudier le piano au conservatoire, chose que je n'ai pas faite, que j'ai regretté chaque année après, mais que voilà, j'ai étudié les langues à la place, j'ai fait la traduction à Bruxelles. Et dans le cadre de mes études, je suis partie en Erasmus à Berlin. Et je suis tombée amoureuse de la ville. Et je suis restée environ 8 ans. J'accompagnais mes collègues qui étaient au conservatoire. Je les accompagnais au piano. Ça a toujours été un truc sur le côté. Avec toujours cette espèce de grande nostalgie de vouloir m'y remettre et de ne pas oser. Et puis quand je suis revenue à Bruxelles, parce que j'avais trouvé un job ici, je me suis vraiment posée, enfin, j'étais plus en train de vouloir vivre tout. Et je me suis un peu recentrée. J'ai acheté un piano, en vrai, et ça a été... voilà, j'avais un piano chez moi et c'est ça qui m'a donné envie de vraiment m'y remettre. Mais sans les ambitions que j'avais avant, c'est-à-dire que je me suis vraiment permis de ne pas être excellente. Voilà.
Waouh, chouette. Et comment est né le projet Oberbaum, du coup?
Le nom ou le projet?
Le projet.
Ben, Oberbaum, c'est vraiment mon envie de proposer mes propres compos. En fait, c'est le fait de commencer à aller, comment on dit, fréquenter tous ces musiciens et musiciennes qui sont là pour se faire plaisir, pour essayer des choses, pour jouer. Voilà, sans se poser de questions, parce que c'est ce qu'ils font, ça m'a libérée d'un truc où je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de cette liberté, en fait. Et donc, comme mon outil, en fait, moi j'aurais voulu être une rockeuse avec des guitares, hein, mais je suis née avec un piano entre les mains. Donc je me suis fait, c'est vraiment ça, et je me suis fait, je vais proposer ça avec le piano. Et donc, c'était aussi en parallèle avec les exercices et les cours avec Dorian, donc tout ça s'est mis un peu. En parallèle, et je me suis vraiment dit, bon, je vais au moins essayer d'aller au bout du truc, mais vraiment avec l'ambition zéro, vraiment, le but c'est de me faire plaisir et d'arriver au bout de quelque chose, et on jugera à la fin si c'est bien ou pas, mais on va déjà jusqu'au bout, quoi. Voilà.
Ok.
Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis en fait, j'ai fait une chanson, deux chansons, puis j'en ai fait 12.
Super, c'est un très beau parcours, hyper riche, quoi.
Souvent, je me dis que j'ai quand même perdu 10 ans de ma vie.
Ah oui?
Parce que j'ai beaucoup fait de détours, quoi, quand même. Si j'avais eu, en fait, si j'avais cru en moi, si j'avais pas pendant 10 ans dit non, mais moi, je suis pas une artiste. Si je m'étais pas convaincue de ça, j'aurais été plus rapide, mais c'est pas grave, j'ai fait d'autres trucs.
Oui, est-ce que finalement les détours n'étaient pas aussi les chemins qu'il fallait prendre ouais. Et peut-être que le but n'est arrivé qu'en chemin, quoi. Donc,
peut-être, oui.
Enfin, moi, c'est ce que je me dis en tout cas.
Oui, qu'il n'y a pas d'hasard, ça, qu'on peut passer par là, peut-être.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok, super, ben merci. Mais du coup, pour embrayer sur la thématique du podcast, j'aimerais bien un petit peu avoir ton ressenti et tes souvenirs vis-à-vis de ta toute première scène, en fait. Comment tu as vécu ta première scène, si tu veux me raconter aussi le contexte de cette première scène.
Je pense que ça devait être avec un projet qu'on avait avec un copain qui s'appelle The Date, mais c'était pas des scènes... c'était professionnalisant, on va dire, mais c'était pas encore une activité que j'avais vraiment envie de professionnaliser. Donc j'imagine que ça devait être un des premiers concerts avec Fabiola. Je pense que c'était peut-être à Namur, justement, à la Houppe. Je me rappelle plus. En fait, ce qui est pratique en tant que clavieriste, c'est que tu es caché derrière ton piano.
Tout à fait.
Et ça c'est un peu ma bouée. Non, mais vraiment, en fait. Après... Je me suis demandé pourquoi tu m'interrogeais moi. Je me suis dit, tiens, pourquoi on m'a recommandé moi? Parce que peut-être que dans les morphologies sur scène, je suis plutôt du côté rond que du côté mince. Mmh. Et je me dis peut-être que, voilà, on va interroger quelqu'un dans le truc normal.
Non, pas du tout, pas du tout.
Non, mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Mais après, j'assume complètement, mon âge, c'est bon, quoi.
Ah, moi, je tenais surtout à avoir des femmes, en fait, des minorités de okay. genre, surtout.
Mais en gros, c'est marrant parce que c'est pas un truc... en fait, ça, justement, c'est un truc dont on parle pas mal entre potes musiciennes. Moi, je me rappelle, j'avais une amie qui habitait ici, juste au-dessus, qui avait un duo. Et je l'ai appelée avant de faire ce podcast pour m'assurer que je pouvais raconter cette histoire.
D'accord.
Donc, elles avaient un duo. Et il y avait donc la fille avec qui elle jouait, qui était vraiment taille mannequin. Et elle est juste plus dans la normalité, on va dire. Et en fait, elle se rappelle combien c'était pas facile parce qu'elle faisait les freins, il fallait adapter, etc. Et surtout, les articles des journalistes, c'était l'enfer. En fait, ils faisaient constamment référence à ça, mais d'une manière tellement débile et peu subtile. Genre, il y avait un article un jour qui était sorti qui disait « La grande blonde est là ». Plus en forme brune, vraiment,
juste
pour ne pas simplement dire la petite et la grande et la grosse, quoi. Mais en gros, le mec est en train de dire la même chose et on s'en fout. T'aurais pas dit ça pour des mecs. Et c'est vraiment, mais est-ce que vous voulez pas juste écouter ce qu'on fait comme musique, voilà. Ouais. Enfin, je digresse.
Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est d'où l'utilité aussi de mettre en avant cette problématique, tu vois.
Complètement. Après, donc ma première scène. Dans Fabiola, il y avait deux mecs et deux filles. L'autre fille avec qui je joue, Aurélie Muller, qui est magnifique. Moi, j'ai toujours été la petite grosse du truc, mais je sais même pas si eux s'en rendent compte, mais évidemment que c'était difficile. Mais après, je les aime d'amour, ils m'aiment d'amour, il n'y a aucun problème, mais je sais qu'au regard des autres, on sait qu'il va y avoir des comparaisons. C'est pas un truc dont j'ai parlé avec Aurélie, par contre. J'en parlais donc avec cette amie voisine et j'en parlais avec une autre copine musicienne dernièrement qui elle n'a pas encore fait de scène et c'est vraiment un truc dont elle a vraiment peur.
Ah ben oui, voilà.
Et parce que d'être comme ça, parce que c'est des complexes qui sont ancrés depuis toujours, parce qu'on sait qu'on va nous regarder. Et alors, elle me racontait aussi, justement, cette amie, elle avait été à un concert au Central, et c'était que des meufs, ce genre punk, à fond. Et elle disait, et évidemment, il y avait la batteuse, elles étaient toutes en mini-top, mini-jupe, la batteuse avec des énormes seins, et elles bougeaient dans tous les sens. Évidemment que t'avais tous les mecs devant, que t'es là, ah, ils sont super, hein. Alors qu'en fait, ils s'en foutaient complètement de comment elles jouaient. Et là, t'es là, mais vous êtes tellement primitifs, en fait, mais... C'est même pas... ils s'en rendent même pas compte, hein.
Ils sont encore ancrés, hein. Il y a encore
Et alors, moi, je suis pour ce genre de groupe. Allez-y, les meufs à fond. Mais t'as vraiment envie de dire... Mais les réactions après... Alors, choisir les fringues avant de monter sur scène, c'est tout un truc aussi. Genre, ok, qu'est-ce que, dans quoi je serais à l'aise, et que, mais qui est quand même un peu habillée, et, mais qui est quand même cool, et qui va pas, qui va cacher mes complexes, et qui, enfin, voilà.
Et qui, du coup, répond à des injonctions, en fait.
Complètement.
À ton bien-être, quoi.
À fond. Mais, pour le coup, c'est marrant parce que, avec, c'est aussi le genre de truc dont on parle avec les mecs, Bon, Fabiola, je me rappelle, ils n'étaient pas tous les deux forcément 100% hyper bien dans leur corps non plus.
Non, bien sûr.
Mais par contre, quand j'ai joué dans les Juliens, où on devait vraiment se déguiser, on avait des costumes, des perruques, du maquillage, etc. Il y avait toujours le moment où on était 8 en coulisses, où il fallait se changer, tester des choses et tout. Moi, au début, j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Mmh. Et les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils se foutent à torse-poil, voilà. Et puis, sur scène, on rigole. Même s'ils montent le petit bedon qui dépasse, c'est juste rigolo. Mais moi, c'était pas facile, quoi. Mmh. Surtout quand je vois les photos, j'étais beaucoup plus ronde. Je les vois aujourd'hui, mais je me marre. Je me dis, mais tant mieux que je l'ai fait, parce que... En fait, on s'en fout.
Oui, bien sûr.
C'est pas le principe. C'était drôle.
Non, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et donc, pour toi, cette série de scènes-là ont été... confrontante, du coup, j'imagine.
Confrontante.
Oui,
même si, comme je disais, vraiment, je me cache derrière mon clavier, c'est sûr. J'aurais vraiment du mal à prendre mon micro devant et à chanter. Voilà. Enfin, quoique, aujourd'hui, j'ai de la bouteille, donc ça va. C'est vraiment un truc sur lequel je travaille aussi, je veux dire. S'accepter, s'aimer, voilà. Le but, quand même, c'est de faire de la super musique. Après, c'est marrant que je dise ça, parce que, de nouveau, ça veut dire qu'on doit être encore meilleur, quoi. De nouveau, on doit faire plus d'efforts, quoi. On a intérêt à être vraiment bonne, hein, parce que sinon...
Oui, mais c'est selon qui, selon quoi, hein.
Oui.
C'est comme les complexes dont tu parlais, ce sont des complexes qui ne sont pas les nôtres, en fait. Ce sont des choses qu'on nous donne en héritage sur les épaules et avec lesquelles et dont on doit se débarrasser finalement dans le temps. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ça ne nous appartient pas, tout ça.
Mais toi aussi, ça va mieux avec le temps, j'imagine, non?
Oui, et c'est ce que j'allais te demander, c'est comment tu ressens maintenant. Est-ce que tu sens un changement de la part du public, des programmatrices, du regard du média? Est-ce que tu sens un changement par rapport aussi au rapport à la scène? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour toi?
Clairement. Oui. Moi, j'ai hyper confiance en les générations qui arrivent, là. Quand on voit même des Billie Eilish, qui, à la base, n'étaient pas non plus filiformes, sans compter les Lizzo, etc. De voir tout ça et de voir... des meufs qui ont du succès planétaire sans être Taylor Swift, ben ça fait du bien, quoi. Je veux dire, ça, on se rend compte quand même les mentalités changent. Après, qu'on dise que Taylor Swift c'est la girl next door, ça me fait bien marrer, quoi. Moi, des girls next door comme ça, j'ai jamais compris. Et alors, il y a un autre truc dont je parlais avec ma pote, c'est quand même, on se disait, dans les grosses célébrités ou dans ce qu'on met en avant, c'est soit tu as le corps mannequin, soit tu es à l'autre extrême, en mode vraiment grosse.
C'est ça, nuance,
voilà. Et en fait, des corps, entre guillemets, normaux, comme les notes, on ne sait pas quoi en faire, quoi.
Oui.
Elle me parlait de la musicienne Pyjama, qui est, je sais pas si tu vois qui c'est, mais elle est juste trop cool, elle s'habille n'importe comment, enfin voilà, et nous on l'adore parce que, enfin, elle est juste normale, quoi. Mais je pense que le fait de devenir de plus en plus à l'aise dans mon corps avec l'âge fait en parallèle avec l'évolution de la société où on voit de plus en plus de modèles diversifiés, quoi. Et ça fait quand même du bien.
Bien sûr.
Surtout, moi, je vois les chanteuses de rock et tout, américaines que j'écoute. C'est genre, je ne sais pas si tu connais, mais il y a Pale Hound et J-Som, qui sont vraiment à l'opposé des standards de beauté actuels. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Je me rappelle qu'un pote m'avait dit, mais franchement, Pale Hound, c'est con. Hein, je sais que c'est vraiment con de dire ça, mais clairement, si elle était un peu plus jolie, elle aurait plus de succès.
Oh.
Et j'ai fait, mais tu t'entends parler?
Mince.
Mais tu te rends compte? Mais on dirait jamais ça pour un mec. Il fait, si, il y a quand même des mecs. Si, regarde Frank Black aussi. il aurait eu plus de succès, mais j'ai dit, pardon, Frank Black n'a pas eu de succès. Je veux dire, ça l'a pas empêché d'avoir du succès, quoi. Donc,
voilà. C'est tellement dommage.
Mais je comprends. C'est tellement des énormités que je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Oui, d'un coup, ils glissent, quoi.
Mais oui, et pourtant, c'est des potes qui disent déconstruits et qu'on a sur d'autres sujets.
Mais qui tout d'un coup reglissent dans la case conditionnement, et oups, et merde, et on les a perdus, quoi. Oui, mais non, mais je vois tout à fait. Oui, c'est bien dommage, mais oui, il y a encore beaucoup de boulot, et c'est notamment pour ça que je pense que c'est important de mettre ces sujets-là en évidence.
Moi, je veux bien voir le succès de Frank Black, hein. Ça me dérange vraiment pas, hein, franchement.
Ah là là, bah ok, super, bah merci pour ce partage d'expérience. Pour la suite, en fait, ce que je voudrais te demander, c'est si tu devais envisager des outils pédagogiques ou courants de pensée ou des idéologies qu'on pourrait mettre en place ou juste partager, justement pour trouver un moyen de rentrer sur scène ou en contact avec la scène ou de préparer une première scène avec plus de confort et moins de brutalité pour des artistes en devenir qui démarrent, qui sortent du conservatoire, qui sortent d'académie, peu importe, mais qui vont envisager et avoir leur première scène. Est-ce que tu aurais une idée ou des choses, des conseils peut-être à donner pour approcher la scène et de manière moins brutale, je dirais, surtout devant...
Je pense que j'ai deux conseils, un très pro et un plutôt ésotérique. Mm-hmm. Mais le premier, c'est vraiment de s'entraîner, notamment grâce à des organismes comme le Studio des Variétés, qui proposent vraiment des résidences avec coach. Oui, et moi, j'en ai fait deux petites et c'est vraiment super parce que le coach te fait sortir de ta zone de confort. Mm-hmm. Il va... J'en ai fait avec Condor aussi, tiens, et avec Oberbaum. Et il te fait vraiment prendre le micro, aller devant, chanter dans ses yeux, vraiment pour te mettre en danger, même si à la fin, tu ne vas pas faire ça sur ton live, mais ça fait vraiment du bien de faire l'exercice. Et donc, en fait, c'est vraiment s'entraîner dans les situations réelles du live, vraiment. Donc trouver en fait des résidences et des coachs vraiment parce que c'est vraiment pas inutile. Et alors j'ai envie de dire des cours de chant. Ça pour moi c'est mon yoga. Et un côté plus ésotérique, c'est que moi souvent j'aimerais et ça on est plus dans la mouvance de la neutralité du corps. Parfois j'aimerais ne pas avoir de corps en fait. J'aimerais juste qu'il soit pas là, que ce soit pas genre qu'on écoute ce que j'ai à proposer, ma voix, voilà. Mais d'un côté, c'est vraiment deux faces d'une même pièce parce que de l'autre côté, j'ai un besoin fou d'incarner le jeu. Je veux dire, quand j'ai commencé au Borbaum, c'était impensable pour moi d'avoir des machines ou quoi. Je voulais faire du piano bar, quoi. Je voulais jouer, limite un peu improviser, et le corps est engagé.
Complètement.
Et la voix, n'en parlons pas, voilà. Mm-hmm. Mais donc, il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Donc, en même temps, vraiment avoir un propos musical fort et faire abstraction de son corps, mais ça, c'est pas possible. Et donc, la seule solution, c'est l'aimer. Mm-hmm. Ouais, c'est tout bête et c'est hyper cliché.
Non.
Mais en fait, moi, le chant, c'est... quand j'ai repris le chant ici, c'était apprendre à chanter, c'était apprendre à m'aimer, c'était apprendre à sortir, à aimer ce qui sort de moi, à aimer ces trucs intérieurs. Et donc en fait, il y a pas d'autre solution que se dire non mais tout va bien, mon corps il est en fait c'est incroyable ce qu'il me permet de faire, il me permet de jouer du piano, il me permet de respirer, il me permet de chanter, il me permet de réfléchir, voilà. Et donc il faut mettre ça en avant et peu importe si on fait 40 kilos ou 110, on s'en fout, peu importe si on est habillé en jogging ou en robe à strass, voilà. Mais il y a vraiment un truc d'amour intérieur, quoi, à avoir, hein.
Ouais, tout à fait, évidemment je suis forcément complètement d'accord vis-à-vis du chant, puisque je suis moi-même chanteuse aussi, et c'est vrai que apprendre à maîtriser et à accepter sa voix, c'est finalement apprendre à accepter tout son corps, puisque tu as besoin de tout ton corps pour le chant, tu sollicites tout en même temps, donc t'as intérêt à l'aimer parce que sinon ça sort pas, quoi.
Complètement. Complètement. Et quand il y a des pensées négatives qui t'envahissent en live, genre qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que... voilà, il faut vraiment avoir puiser une force intérieure et se dire non, mais en fait, ils peuvent lire. Enfin, je suis invincible en fait. Mm-hmm. Je veux dire, moi, tant que je m'aime, tout va bien en fait. Voilà.
Et puis c'est ton âme qui parle, je pense, quand tu chantes aussi. Donc il y a quelque chose qui est. Un truc qui est sacré, quoi, qui est bien au-delà finalement du corps, mais qui est quand même complètement connecté à cette machine, quoi.
Complètement.
Ouais, ouais, tout à fait. Allez, super. Merci.
Ça reste une mise à nu, quoi, mais voilà.
Ouais, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des outils qu'on doit tous et toutes développer en soi pour. Comme bouclier, quoi. Ça, il faut quand même trouver une solution pour se protéger, parce que je pense qu'on est. C'est pour ça que cette problématique m'intéressait aussi, c'est qu'on est. Évidemment, pas tous et toutes égaux vis-à-vis du rapport au public, du rapport à la scène, etc. Donc, mais par contre, je pense que du coup, c'est un pertinent de pouvoir tous et toutes se trouver un bouclier, quoi, quel qu'il soit, même vis-à-vis de soi-même. Quoi, parce
Et moi, j'en remarque aussi dans le milieu plutôt pop-rock, en tout cas, autour de moi, c'est vraiment... On met beaucoup en avant la personnalité qui se base un peu sur ses acquis et qu'on accepte que c'est comme ça et c'est comme ça qu'on joue. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de... Enfin, on pourrait vraiment encourager plus le fait de prendre des cours, au lieu de tout baser sur... sur l'attitude, en fait. Sur l'attitude ou la personnalité ou quoi. Non, en
Exactement.
Fait, c'est vraiment important d'avoir des cours.
Mais des premières confrontations, brouillons, tests, répétitions, comme tu parlais de résidence. Exactement, exactement. Oui, tout à fait.
On sous-estime vraiment ça, ou c'est comme l'échauffement de la voix avant les concerts. Dans le milieu rock, ils ne font pas ça. Moi, j'essaie, mais
oui,
c'est pas moi, je le fais.
Oui,
puis à 60
ans, tu la perds. Oui, quoi. C'est ça. C'est un peu dommage. Oui, c'est un peu dommage. Non, non, complètement. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Super. Mais écoute, je te remercie pour...
Avec plaisir, ces
belles réponses. Et je te laisse nous faire part de ton actualité artistique et autres, ce que tu souhaites nous mettre en avant.
Mais l'album de Borbom est sorti cette année, The Absence of Misery. Il est disponible sur toutes les plateformes et en vinyle. J'ai des t-shirts aussi, si vous voulez.
Super. Et de très jolis stickers. J'en ai avec moi, là, ici.
Il m'en reste. L'actu principale, c'est vraiment l'album. Et puis les concerts à venir à retrouver sur mes réseaux sociaux.
Sur tous les réseaux, oui. Voilà. Qui sont évidemment dans les liens, dans la publication et dans le podcast. Super, voilà. Je te remercie grandement. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Mais oui, de même.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À très bientôt.